Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Bonjour, bienvenue sur La Ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Nous nous demanderons aujourd'hui qui juge nos footballeurs, de la légitimité du juge, des conditions du jugement et de comment ces avis sont acceptés ou pas, en passant par la République de l'opinion. Pour cela, j'ai deux invités. Thibault Leplat, à égale distance du football et de la philo, de sur la ligne et de l'after foot, et Laurent Favre, journaliste, chef de la rubrique sport au Temps. Bonjour Thibault.
Salut Alex, salut tout le monde.
Salut Laurent.
Bonjour.
Parfait, ben je vous propose de commencer par Thibault avec la question d'introduction. Comment évaluer une performance?
Ah ben c'est tout le mystère et à mon avis tout le sens de cette question là, c'est que la performance n'est pas exactement la même chose qu'une opération mathématique. Évaluer un 2 plus 2 égale 4, on le trouve assez facilement la réponse, c'est vrai ou c'est faux. Une performance n'est pas vraie ou fausse, une performance est beaucoup plus large, et je pense que toute la question du jugement en matière de sport tient au fait que le sport est avant tout une affaire d'amateurs. Et si on parle d'amateur, on parle évidemment de goût. Donc on se rapproche du jugement de goût, on parle d'amour, donc c'est-à-dire qu'on parle aussi d'un certain nombre de quelque chose comme le désir d'une performance, l'attente de d'assister à une performance, et ensuite c'est lié aussi à des codes. Il n'y a que l'amateur, le connaisseur qui est capable de repérer ce qu'est une bonne performance. Donc je pense un des problèmes du jugement en matière sportive est lié à la nature de l'activité sportive en elle-même et au fait qu'elle s'adresse à des connaisseurs.
Laurent?
Bien heureux sont les amateurs d'athlétisme ou de natation pour qui la performance est facilement mesurable puisqu'elle est chronométrique. En football, puisqu'on parle essentiellement de football, c'est beaucoup plus compliqué. D'une part parce qu'on peut mal jouer et gagner. On peut gagner et mal jouer. Et puis d'autre part parce que on a tendance à juger des performances individuelles dans un sport collectif, donc ce qui complique encore la problématique.
Et il y a aussi une affaire qui est liée à la personne du juge aussi. Alors ça, c'est lié à une partie du problème est liée à l'activité, c'est-à-dire le sport. Même si je suis pas totalement d'accord avec toi, Laurent, sur la question du domaine sportif. Effectivement, il y a une complexité qui s'ajoute au football liée au fait que ce soit un sport à score faible, donc avec une grosse partie de contingence. Mais même en matière d'athlétisme, même en matière de performance chronométrique, mathématique, pour apprécier, alors elle est immédiatement plus, comment dire, détectable, mais elle n'est pas plus appréciable pour autant. C'est-à-dire que tu peux un 100 mètres à moins de 10 secondes, quiconque ne connaît pas grand-chose à l'histoire du 100 mètres, ça va pas lui dire grand chose en réalité. Par contre, quelqu'un qui est capable de dire il est passé sous 10 secondes parce que dans l'histoire du sprint c'est une performance qui est très difficile à obtenir, etc. Ça demande un certain degré déjà de connaissance. C'est en ce sens-là où je veux dire que dans le sport il y a l'idée d'un connaisseur. C'est pas le même degré, je suis d'accord avec toi. Il y a pas la même part d'incertitude, pas le même degré de connaissance, mais malgré tout il y a quand même cette idée que ça s'adresse déjà à des gens qui savent déjà quelque chose sur la performance et sur le contexte de la performance. C'est la différence avec le 2 plus 2 égale 4. Je veux dire, le 2 plus 2 égale 4, c'est vrai ou c'est faux, il n'y a pas de degré d'appréciation. Dans le jugement sportif, il y a quand même quelque chose qui est lié à ce qu'on pourra appeler la subjectivité, bien sûr. C'est l'idée qu'une subjectivité éclairée, mais une subjectivité tout de même. Voilà. Et la deuxième chose, c'est lié à la légitimité du juge. Sur quoi est fondée la légitimité du juge? Et c'est le gros problème du débat constant qu'il y a sur la question des journalistes qui jugent la performance, ou des journalistes qui n'ont pas joué au football, ou qui n'ont pas fait de sport, ou les journalistes, ou bref, la question du critique, de manière générale. pour apprécier l'œuvre, l'action, l'objet qu'il a sous les yeux. Donc c'est, à mon avis, l'autre question sous-jacente, c'est quelle est la légitimité du juge.
Oui, effectivement, tu as bien posé le débat. Et le problème actuel, c'est que tout le monde s'accorde le droit d'avoir un avis, de l'émettre de façon un peu péremptoire ou peu argumentée. Et puis la réponse à ça, c'est souvent de discréditer la critique en discréditant le juge. Il me semble, je réfléchissais un petit peu, il me semble que il y a peu de domaines qui sont comparables. Moi, je travaille dans un journal. On reproche jamais à mes collègues de la rubrique économie de pas avoir monté d'entreprise, ou à celui qui fait le cinéma de n'avoir jamais été acteur ou réalisateur. Par contre, en sport et en football, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Vous n'avez pas joué. Voilà. Mmh. Et puis, c'est un argument d'autant plus pernicieux que même si on a joué, c'est jamais assez. Si on a joué, on n'a pas été pro. Si on a été pro, on n'a pas été international. Si on a été international, on n'a pas été un top top joueur. Et si on a été un top top joueur, comme peut-être Dugarry, bah on l'a été il y a 20 ans, puis le foot a changé et aujourd'hui on n'y connaît plus rien. Donc voilà, c'est un argument qui tourne un peu, qui est imparable parce qu'on peut toujours discréditer quelqu'un.
Bah parce que je crois que le dans la notion de jugement, il y a la notion de distinction, évidemment. C'est-à-dire que il s'agit de distinguer qui est légitime, qui ne l'est pas. Et donc, ce qui est premier dans l'idée de jugement, en tout cas dans ce que tu dis toi, c'est effectivement, c'est nous, ça nous arrive tout le temps, ça c'est de séparer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire, et que simplement la séparation n'est jamais assez fine. Et en réalité, le seul critère de jugement est quasiment propre au sujet qui juge, c'est-à-dire chacun a sa propre légitimité pour juger, ce qui donne une sorte de guerre du jugement, une guerre des interprétations, où toutes les interprétations se fondent sur leur propre légitimité, et en réalité ce qui gouverne, c'est plus le rapport rationnel, dialogique, fondé sur la démonstration, mais fondé exclusivement sur un rapport de force en réalité. Et tu réhabilites un rapport de force en amenant ou l'argument d'autorité, quoi. La même chose qui veut dire que la seule légitimité du jugement, c'est la légitimité que je t'autoproclame. En fait, chacun a sa propre légitimité. Moi, j'ai joué en un tel niveau. Moi, j'ai fait ça. Et effectivement, si tu te fondes sur l'expérience, uniquement sur l'expérience, tu tournes rapidement en rond pour les critères de légitimité.
Alexandre.
Oui, ben justement, moi, je voulais rappeler une anecdote qui m'amuse. C'est l'anecdote de Patrick Evra qui, lors d'un grand déballage dans l'émission Téléfoot, a annoncé qu'il arrêtait sa carrière de footballeur sur Pierre Ménès, arrivé à faire 8 jongles avec un ballon de football. Et évidemment, ben, Pierre Ménès, après un entraînement que l'on peut imaginer assez important, a réussi à faire 10 jongles. Et on peut regretter qu'aucun des deux ait fini leur carrière là-dessus. Mais de façon plus générale, moi, je me posais la question de... Une question un peu parallèle, c'est cette question que vous venez de poser, finalement, la légitimité, moi, elle m'a été posée par un journaliste d'investigation. Et on revient un peu à ce que tu as dit, c'est que finalement, maintenant, si même les journalistes se posent la question de savoir est-ce qu'il faut avoir été joueur pour pouvoir être critique, alors c'est une question centrale. Je vous remercie de l'avoir abordé longuement. Moi, j'avais évidemment une autre question sous-jacente, c'est la question du grand joueur. Est-ce qu'un grand joueur fait forcément un bon analyste et un bon juge? Et qu'est-ce qui fait la différence entre les bons juges et les bons analystes quand on parle de joueurs? Laurent.
Je réfléchis, je cherche, j'essaie de penser à des cas.
Mais l'un des cas classiques, c'est Thierry Henry. On avoue, ouais. Enfin, il y a beaucoup de gens qui saluent Thierry Henry, qui louent son esprit d'analyse, et on se demande si finalement, s'il est autant apprécié, est-ce que c'est la qualité de ses analyses, est-ce que c'est plutôt sa capacité à faire des punchlines, ou alors c'est que finalement, ben, il était sur cette autoroute des gens qui ont la carte, si j'ose dire, qui est ancien joueur, beaucoup de succès, et un joueur qui, pendant toute sa carrière, a été salué parce que il s'intéressait à son sport, il connaissait le sport, il connaissait les joueurs, et il était voilà, friand de d'analyser son propre jeu, ses propres performances.
J'ai un peu de peine à démêler tout ça. Thierry Henry a été un très grand joueur. Il est connu comme étant un immense passionné du football, de son histoire, de ce qu'on en dit. Il connaît tout sur tout. Il est excellent analyste. Et puis, pour le moment, il est plutôt pas très bon comme entraîneur.
Il est vraiment piètre, vraiment mauvais.
Donc, ça me laisse un peu à penser que ce sont des... Dans chaque domaine, ce sont des qualités un peu distinctes qu'on peut avoir ou pas, qu'on peut posséder partiellement. Enfin, je sais pas si Zidane a un peu le même parcours, mais Zidane n'a pas les mots. Donc il peut être un meilleur entraîneur que Thierry Henry, mais un moins bon juge. Voilà.
C'est clair. Souvent la question est de savoir si dans quel cadre on se trouve. Mm-hmm. Est-ce qu'on est là pour dire le vrai ou est-ce qu'on est là pour faire le show? C'est-à-dire est-ce qu'on est là pour la pertinence de l'analyse ou on est là parce que cette analyse est agréable à écouter ou qu'elle est bien présentée. En quelque sorte le fond et la forme, si je puis dire. Mmh. Dans le cadre médiatique, la question de la vérité est pas prioritaire. Ah, quelqu'un qui se fait un café. La question de l'analyse est pas prioritaire parce que c'est pas pour ça qu'on regarde pas la télévision pour voir le vrai. On n'écoute pas une analyse sur. Je sais bien, à la fin c'est pareil. La question de la vérité, elle est une donnée supplémentaire. Tant mieux si c'est vrai. Mais il y a surtout l'idée d'un divertissement. Thierry Henry, si on considère comme un bon commentateur, c'est aussi parce qu'il a une certaine diction, une certaine manière de parler de football assez rafraîchissante en France, en tout cas, parce qu'il va utiliser un registre de langage qui est pas le même, des expressions qui sont pas les mêmes, et donc il y a quand même l'idée dans la forme quand même de quelque chose d'un peu différent. Est-ce qu'il dit le vrai ? C'est difficile en matière de football de juger le vrai, parce que si tant est qu'on fondait ça sur une démonstration, ça tient pas en 20 secondes. Donc effectivement, la punchline est un peu ce qui pollue la démonstration. Mais est-ce qu'on est là pour entendre une démonstration? Je sais pas. Ce qui est effectivement curieux chez Henry, c'est que comment être un si bon analyste du jeu et un si mauvais entraîneur. Parce qu'habituellement, c'est assez rare en fait les cas de très bons analystes. Enfin, à ma connaissance, il y en a certainement beaucoup, mais qui n'ont pas été de bons pédagogues. Habituellement, le pédagogue, c'est précisément celui qui utilise le langage comme l'outil principal de la progression. C'est celui qui va montrer, c'est celui qui va expliquer. Et pourtant, lui n'y arrive pas. Et Zidane, effectivement, bon exemple, c'est l'exemple inverse. C'est-à-dire, c'est pas vraiment quelqu'un d'éloquent, hein, c'est moins qu'on puisse dire. En revanche, c'est quelqu'un qui est extrêmement écouté. Extrêmement suivi et extrêmement performant comme entraîneur. Alors peut-être parce qu'il participe aux entraînements, peut-être j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a une forme de charisme aussi, de charisme de personnalité qui fait que son silence, le fait d'administrer ses silences rend ses mots peut-être plus forts, la signification de ses mots plus forte. Moi je suis un peu perturbé sur ces deux exemples là. Ce que je crois effectivement qu'Henri est un très bon analyste, mais comme Nasri, comme certains joueurs, et c'est rare souvent que les grands joueurs soient aussi de grands analystes, sauf vraiment exception. Cruyff est un analyste exceptionnel, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont d'abord des intuitifs et qui, au moment de passer au logos, au moment de passer à la mise en rationalité, la mise en discours, pêchent, parce que pour eux le football n'est pas véritablement une langue qu'on parle, c'est une langue qu'ils pratiquent mais qu'ils ne parlent pas. Donc de passer du geste au mot n'est pas une évidence, tant dans un sens que dans l'autre.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Oui, c'est très juste. Sur la pédagogie ou non des consultants et des entraîneurs, peut-être on peut lier à ça au fait que le rôle de l'entraîneur est passé un peu de celui de l'instituteur au professeur d'université. On est passé un peu de la leçon de choses au cours magistral. Il n'y a plus forcément besoin de, en tout cas dans la sphère médiatique, il n'y a plus forcément besoin d'expliquer et davantage d'asséner. Je ne sais pas ce que
tu
en penses.
Et toi, Laurent, dans ton travail, quand tu dois faire appel à la parole des joueurs, par exemple, sur quels critères tu te fondes pour retenir des propos ou pour t'adresser à tel ou tel joueur
Choisir le joueur. Ouais. Oui. Comment tu choisis le
joueur et pratiquant, de manière générale. Quoi.
Alors, les grands joueurs, il y a rarement des interviews maintenant. C'est devenu très, très compliqué. L'idée générale, c'est toujours d'essayer de dire le plus de complexité le plus simplement possible, mais ça arrive trop peu souvent, malheureusement, pour en détenir une recette. Je ne saurais pas trop quoi te dire.
Souvent, moi, dans mon expérience, je constate qu'en réalité, ce que te disent les joueurs sont des propos souvent assez convenus et que tu pourrais quasiment dire la même chose sans avoir été joueur professionnel. Moi, plein de fois dans mes travaux de recherche ou mes travaux journalistiques, à chaque fois, je suis toujours très souvent déçu de ce qui est dit par les joueurs et que je trouve que ça appauvrit, en fait, le propos en le fait de leur demander.
Il y a eu un cas célèbre comme ça de type qui inventait des interviews.
Ouais.
Et en fait, elles étaient très crédibles, elles étaient plus intéressantes que ce qu'auraient donné des vraies interviews. Pour différentes raisons aussi, le fait que les joueurs se contrôlent beaucoup. Mais c'est vrai que, alors ça c'est autre chose, je sais pas à quel moment on doit aborder ça, mais les journalistes on leur parle de responsabilité, pardon, dans le fait qu'ils soient décrédibilisés comme juges. En partie parce qu'ils ont complètement abandonné aux consultants le rôle de l'analyse. Moi, quand j'ai débuté dans le métier, il y avait encore les vieux journalistes des années 70. Je pense Thibault en a étudié quelques-uns dans Football à la Française. Jean-Philippe Rétaquer notamment. En Suisse, on avait Jacques Ducret, Norbert Eschmann, Raymond Pittet. C'était des gens pour qui leur avis comptait davantage que celui du joueur. Ils n'avaient pas peur de ça. Mais c'était aussi une époque où ils avaient accès au vestiaire, ils avaient accès aux joueurs. Ils discutaient longuement avec tout le monde avant de se forger leur propre opinion. Et ça donnait des papiers qui étaient très étayés, mais souvent sans aucune citation. Voilà. Maintenant, dans les papiers d'aujourd'hui, il faut le plus de citations possible. C'est un peu comme les fruits dans les yaourts. Il faut que ça se voit. Il faut qu'il y ait des vrais morceaux d'interview dans le papier, même si bien souvent, ça n'apporte pas grand-chose.
Oui, c'est vrai qu'il y a une responsabilité du journalisme. Et ce qui était intéressant dans le cas de France Football, par exemple, c'était que j'avais pu en discuter avec l'ancien rédacteur en chef Gérard Egenès de France Football, à qui j'avais posé cette question-là en lui demandant comment évolue le journalisme en comparant la génération des Rétaqueurs et autres avec la génération actuelle et la génération qui l'a suivie, à savoir les Ménès et autres. Et il me disait que le journalisme dont tu parles là, les anciens, si je puis dire, il le disait d'un ton peut-être un peu paternaliste. Il disait qu'il considérait comme un journalisme de passionné, et que désormais on avait un journalisme de technicien, de spécialiste, qui considérait que la technique journalistique s'était améliorée, et parce qu'elle s'était améliorée, et paradoxalement, elle s'est appauvrie en fait dans le sens qu'elle est censée retranscrire, et que peut-être ce côté amateur, connaisseur dont on parlait tout à l'heure, a finalement disparu au profit de techniques journalistiques qui à mon sens, ont appauvri le propos, à savoir la technique journalistique du fait, l'obsession du factuel, avec une définition un peu large, un peu vague de ce que pourrait être un fait journalistique en matière sportive, à savoir une déclaration est considérée comme un fait, une performance, quelle qu'elle soit, non circonstanciée, est considérée comme un fait, ce qui fait que on mélange en fait tout un tas de choses dans des papiers qui sont finalement un recueil d'opinions, pas véritablement argumentées et qui desservent l'angle ou la démonstration. En fait, il n'y a plus véritablement de démonstration. On se rapporte on essaie de rapporter objectivement des choses qui sont inobjectivables. Une performance, on l'a dit tout à l'heure, c'est très compliqué à objectiver. Par exemple, un exemple, le qualificatif historique. Une performance historique. Jamais on a eu entendu autant cet adjectif depuis, je disais, une dizaine d'années peut-être. Ça a toujours été présent en sport, mais je crois que là, cette année, si on devait faire une recension de l'adjectif historique ou légendaire, je pense qu'on aurait des surprises, où l'obsession de l'histoire est omniprésente. Elle est omniprésente inversement proportionnellement aux faits historiques qu'elle relate. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'historique dans une performance sportive. Précisément, la performance sportive, elle se répète sans cesse. C'est quelque chose de l'ordre du rituel, c'est quelque chose qui recommence. Donc c'est le contraire de l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose qui a un début, un milieu, une fin, qui a une sorte de téléologie, une sorte d'idée de progrès ou une idée de continuité. Le sport, c'est pas du tout ça. Le sport, c'est le contraire de l'histoire. Le sport, c'est le rituel, c'est la répétition. C'est pas du tout l'historique. Et pourtant, pourquoi on utilise ce terme historique? Parce qu'on a besoin de le fonder. On a besoin de le fonder en termes factuels. Et le considérer qu'il est historique, c'est une manière de lui donner une légitimité au regard des autres. Et je pense que c'est le symptôme, à mon avis, d'un affaiblissement, d'un appauvrissement culturel, en réalité, du journalisme sportif. Alors, je fais des généralités, il y a évidemment des exceptions, évidemment des nuances à apporter, mais je pense qu'il y a, le fait de passer de ce qu'on appelle le journalisme de passionné au journalisme de technicien, on a perdu ce qui est l'essence du sport, à savoir une forme d'universalité et une forme d'humanisme dans la manière d'aborder les choses. En réalité, le journalisme sportif, c'est le journalisme le plus généraliste qui soit. C'est celui qui traite de thèmes extrêmement larges, que ce soit l'idée de la performance, l'héroïsme, la vérité, la trahison, les relations internationales. Et tu peux traiter à peu près tous les sujets à travers le filtre du sport, ce que tu peux pas faire dans d'autres disciplines. Et donc, à mon sens, en faisant des journalistes sportifs, des techniciens du sport, c'est-à-dire uniquement consacrés au sport, on a perdu, à mon sens, ce qu'est l'essence même du récit sportif, à savoir un récit exemplaire et qu'on pourrait qualifier éventuellement de légendaire, quoi, si on exagère un peu.
Étonnamment, à l'époque des journalistes passionnés, c'était souvent des gens qui avaient des parcours assez originaux. En Suisse, on avait un ancien policier qui était devenu un grand journaliste, qui ressemblait d'ailleurs à Javert. On avait un prof de latin grec qui était devenu commentateur à la télévision. Et effectivement, ça amène un autre bagage que des jeunes qui ont toujours rêvé que de commenter des matchs et qui ont fait des écoles de journalisme pour ça et qui arrivent très formatés sur le marché.
Je vous remercie pour cette introduction à ma prochaine question. En effet, je vais parler du journalisme et des journalistes qui ont changé. J'ai fait un podcast sur Eugène Saccomanno et une des choses que j'ai retenu, c'est que à son époque, au début de sa carrière en tout cas, eh bien les journalistes, ils étaient amis avec les joueurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils rentraient dans le vestiaire, ils prenaient les mêmes avions, dormaient dans les mêmes hôtels, et puis ils faisaient un peu partie de l'équipe, quoi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit moins, et puis on voit apparaître évidemment les risques de connivence amicale ou de connivence d'intérêt. Alors Daniel Riolo à l'Afterfoot dit très régulièrement que lui, il veut pas être ami avec les joueurs et que s'il devenait ami avec les joueurs, il sentirait qu'il y a un risque pour lui d'être moins libre de critiquer et d'avoir le frein à main. Laurent, quelle est ta position par rapport à ça? Et toi, finalement, est-ce que parfois tu as eu envie de devenir ami avec un joueur parce que il y avait une connexion entre vous et puis tu t'es refusé? Ou alors comment est-ce que... Quelle est ton analyse par rapport à ça?
Alors il y a quelques joueurs que je connais depuis très longtemps, que j'ai vu débuter en junior, comme peut-être Patrick Muller, si vous vous souvenez de lui, c'est un joueur de Lyon. Mais c'est plus des copains que des amis. Il faut pas. Après, bon, le temps passe vite. On est assez vite plus âgé que les joueurs. Avec les très grands en foot, j'ai pas d'exemple, mais en tennis, j'ai beaucoup suivi Roger Federer. Et là, c'était très clair que c'était mieux pour tout le monde de pas prétendre être ami et de conserver d'excellentes relations de travail. C'est comme ça que ça doit fonctionner et il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, mais ça, c'est des hasards de rencontre. De toute façon, le système est organisé pour qu'il y ait de moins en moins de contacts entre les journalistes et les joueurs. Et je me souviens d'une réflexion de Vincent Duluc qui a dit il n'y a pas très longtemps qu'il avait l'impression que son métier ressemblait de plus en plus à celui d'un critique de cinéma. Il allait voir un produit fini, un match. Il s'asseyait sur un fauteuil, il regardait le match et il jugeait le match comme un journaliste de cinéma écrirait un article après un film dont il n'aurait vu ni le tournage, ni discuté avec le réalisateur et les acteurs avant, ni eu la primeur du scénario, ni rien de tout cela. Et c'est de plus en plus comme ça. C'est ce qui explique aussi le fait qu'il y a de plus en plus de procès en illégitimité, en disant mais vous savez pas de quoi vous parlez, parce que précisément le football a organisé ça. Les journalistes ont d'abord perdu l'accès au vestiaire, puis l'accès aux joueurs, puis l'accès au terrain, même d'entraînement. La plupart des matchs, en tout cas des équipes nationales, vous avez droit aux 15 premières minutes durant lesquelles les joueurs font quelques tours de terrain, et si vous avez de la chance quelques 5 contre 2 ou des petits exercices techniques. Et donc vous ne voyez concrètement rien de ce qui pourrait être intéressant pour comprendre et pour juger en connaissance de cause.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Voilà. Donc, j'ai de nouveau quelqu'un à la machine à café. Donc, je suis coupé du feu de ce que parler Thibaut.
Ouais, alors c'est un phénomène qui est assez paradoxal, parce que d'un côté, on a effectivement une mise à distance du juge avec son objet. Comme le décrit Duluc, c'est-à-dire comme tu viens de le décrire Laurent, c'est-à-dire qu'on éloigne de plus en plus le journaliste de son objet, et en même temps cet éloignement provoque aussi une sorte de course-poursuite à l'exclusivité, de course-poursuite à l'accès, évidemment, parce que tu crées de la rareté, tu crées de la valeur en réalité, et finalement aussi une uniformisation du produit final, en quelque sorte. Moi, ce qu'on pourrait répondre à Duluc, effectivement, soit c'est un métier qui se rapproche de celui de critique. Enfin, ça n'empêche pas de voir des choses. La question est d'apprendre à voir. Le problème, c'est que si tout le monde voit la même chose et personne ne voit rien, il s'agit de voir, effectivement. Il s'agit de voir. Un observateur attentif peut voir des choses. On a un spectacle qui dure 90 minutes, énormément de matchs. La difficulté, c'est la profusion d'images. Dans cette profusion d'images, on ne voit plus rien. Et que tout le monde voit la même chose. Il n'y a jamais eu autant de journalistes sportifs, il n'y a jamais eu autant d'images, et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'uniformité dans les analyses et dans la manière de le regarder. Je crois que le travail du juge, au-delà de la question des sources, qui est effectivement un problème journalistique, le problème de la source, mais la question du critique d'une manière générale est d'abord un apprentissage du regard. Et l'apprentissage du regard, il n'y a pas de secret, il se fait par la culture. Et qu'effectivement, si on supprime les humanités, si on supprime l'apprentissage, si on supprime le fond culturel sur lequel, dans lequel évolue le football, on ne voit plus rien. Effectivement, on ne voit plus rien parce qu'on s'en résout à cette folie du fait, à cette obsession du fait mal pensé, mal regardé, mal pensé. On se retrouve à tous voir la même chose. Un exemple. Vous regardez le traitement des équipes nationales et par exemple la Coupe du Monde. C'est très intéressant de voir que dans notre cas, toute la presse française se poursuivait en caravane, un peu en quelque sorte, la progression de l'équipe de France. Donc chacun va à la conférence de presse, chacun raconte ça. Et qu'en réalité, pendant cette Coupe du Monde-là, et quand tu compares avec la presse étrangère et tu compares avec différents types de médias, tu te rends compte que plus tu es loin de l'objet, plus tu dis des choses intéressantes.
Voilà, c'est ça ma question.
Et c'est ça qui est paradoxal maintenant. Mmh. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où la proximité, finalement, n'a plus de valeur parce qu'elle est tellement organisée qu'elle crée une sorte de mimétisme qui empêche de voir. Et que ce qui te reste un peu de visibilité est une forme d'écran de fumée, une organisation, une mise en scène qui empêche de regarder correctement. Et que maintenant, ça c'est vieux comme, faut lire Le Prince de Machiavel, il explique très bien comment on voit une montagne. On voit mieux une montagne en reculant, pas en s'approchant de la montagne. Je parle à un Suisse, donc évidemment je pense qu'il ne peut être que d'accord avec moi. Comment regarde-t-on le Mont Blanc? Bon, on le voit très bien de Genève, quoi. Il n'y a pas besoin de monter dessus. Si vous montez sur le Mont Blanc, vous ne le voyez plus, le Mont Blanc. Bon, c'est un peu le principe du jugement. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée que faire le pas de côté, le pas de recul, permet d'apporter... de mieux voir, en quelque sorte. Et je termine là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, à mon sens, trois légitimités possibles maintenant. La première, c'est la légitimité de l'expérience. On en a parlé sur la question des pratiquants, des joueurs, des entraîneurs, etc. Ça, c'est une première source de légitimité. Deuxième source de légitimité, il y a le fait. Donc ça, c'est ce qu'on en a parlé sur la question des journalistes. Qu'est-ce qu'un fait sportif? Il faut en discuter. Et troisième sens, troisième élément de légitimité, c'est le sens, précisément. Et c'est là où moi, je prêche pour ma paroisse, c'est que la culture, moi, dans mon cas, la philosophie, mais ça peut être dans d'autres domaines, il y a aussi cette légitimité-là qui est de dire, voir différemment, c'est aussi voir autre chose dans l'objet lui-même. Et qui a plusieurs valeurs. Il y a l'expérience, il y a le factuel, c'est-à-dire l'aspect historique, mais il y a aussi l'aspect du sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que cette performance exprime? Qu'est-ce que cet événement exprime de l'époque? L'époque saisie dans du sport, en quelque sorte. Et c'est à mon avis là que le journalisme sportif pêche. C'est qu'il attend, alors là, sauf exception, on en a une avec nous aujourd'hui, je suis ravi, c'est que c'est être capable de voir à travers le sport ce que le sport dit de l'époque. Et c'est ça qui rend intéressant le journalisme sportif. Tout le reste, à mon avis, c'est beaucoup du bavardage. Ce qui est très intéressant, c'est il faut que ces trois dimensions-là soient présentes. Et elles sont pas concurrentes, en quelque sorte. Ces trois dimensions-là tiennent ensemble, à mon sens, le récit sportif.
C'est l'esprit du podcast. Et justement, moi, j'avais une sous-question pour toi, Laurent. Ne juge-t-on pas mieux les joueurs avec qui on n'a pas d'attache, donc ceux qui jouent dans d'autres championnats et ou d'autres sélections? Est-ce que Thibaut Leplat ne juge pas mieux Yann Sommer que toi? Et est-ce que toi, tu juges pas mieux Mike Maignan que Thibaut Leplat?
Oh, pas forcément, non. Il y a quand même... Comme je l'ai dit, on est quand même assez suffisamment éloigné de l'un ou l'autre que pour avoir une vue d'ensemble, ou être capable d'avoir une vue d'ensemble. Après, il y a des spécificités suisses, romandes et françaises. Il a pu m'arriver de faire quelques observations sur le football français que peut-être on n'avait pas depuis la France. Mais sur la question du sens, je trouve ça très juste. Et en même temps, puisque tu as eu la bonté de citer la rubrique sport du temps comme exemple de ça, c'est malgré tout un peu par défaut, même si c'est, en tout cas, c'est, on a choisi ce créneau-là parce que les autres nous étaient interdits. Et les autres, c'est quand même l'essentiel de des commentaires de ce qui se dit actuellement ou quotidiennement sur le football. Donc il faudrait aussi voir de quelle manière on pourrait traiter ça ou ce qu'il y a à en penser et pas simplement le balayer d'un revers de la main, il me semble.
Non, non, pas du tout. Et c'est ce que je dis simplement, c'est que c'est pas concurrent. Ouais. L'un se substitue pas à l'autre, pas du tout. Ce sont des dimensions qui sont complémentaires. Elle se fait par défaut, peut-être. En même temps, comment choisit-on une spécialité si ce n'est par défaut? Enfin, je sais pas exactement comment on s'y prend. J'aimerais bien choisir toujours les choses en premier choix. Malheureusement, ça n'a pas toujours été mon cas. Donc non, chacun a un peu sa méthode. Mais la question du sens était très présente dans les anciens dont tu parlais tout à l'heure. C'était pas incompatible. D'ailleurs, je pense même qu'il l'a privilégié à celle du factuel. C'est ce que reprochait précisément Eugenès à cette génération-là. C'est de mettre le factuel de côté. Parce qu'ils considéraient que ce que le factuel, qui était même un terme qui n'existait même pas, enfin c'était un terme qui n'existait pas pour eux, les vérités de fait étaient quelque chose qui était très secondaire pour eux, que la vérité du jugement était autrement plus prééminente pour eux, et que quelqu'un comme Jacques Ferrand, c'était pas pour rien que ces gens-là ont inventé toutes les compétitions. Jacques Ferrand était un écrivain, et c'est toujours considéré comme un écrivain et qui a fait des études littéraires. Gabriel Hanau était un agrégé d'allemand. Tous les grands fondateurs, tous les grands journalistes sportifs sont tous, quasiment sans exception, issus d'un milieu hors journalistique et hors sport. Et c'est très peu. Alors Gabriel Hanau, c'est un exemple un peu particulier parce que lui, il allie un peu les deux. Il était à la fois ancien international et en même temps agrégé. Donc c'était effectivement un peu espèce de profil un peu hybride. Mais à mon sens, les choses les plus intéressantes viennent de ce mariage-là. C'est-à-dire, on l'a vu dans la même personne, mais vous avez un mariage dans un même journal. Vous pouvez avoir des gens à la fois consacrés à alimenter des sources, à s'alimenter auprès de sources, d'autres alimenter l'aspect historique et d'autres alimenter l'aspect, je ne sais pas dire philosophique, mais culturel du sport. Je pense que tout ça se marie très bien. La difficulté, c'est quand on veut privilégier l'un sur l'autre. On considère que le journalisme sportif, c'est ça. C'est une chose, c'est un récit factuel qui, à mon sens, à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, n'a plus vraiment de privilège, en fait. Maintenant, le privilège du factuel, si je puis dire, il est plutôt sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit? Quand on veut chercher un résumé, quand on veut chercher ce qui s'est passé dans un match, notre premier réflexe, c'est pas d'attendre le journal du lendemain. Non, bien au contraire. D'ailleurs, c'est ignorer la manière dont sont écrits ces comptes rendus-là. Bientôt, ce sera ChatGPT qui écrira les comptes rendus de match, et ce sera normal, ce sera logique, en réalité. La question maintenant est de savoir comment on aborde la performance. C'est pour ça que pour moi la première question c'est ça, c'est on ne peut pas faire un récit de la performance sportive si on ne comprend pas la complexité de la performance sportive, à savoir son aspect contingent, à savoir son aspect complexe, son aspect culturel. Il n'y a pas que la dimension technique dans la performance sportive, et ça une machine ne pourra jamais vous l'expliquer. Donc je crois qu'il y a différents outils, et qu'à mon sens le juge n'est légitime que s'il a parfaitement conscience du champ d'expertise dans lequel il se déploie. Effectivement, l'expérience d'un joueur de niveau n'est pas la même qu'une expérience de journaliste ou l'expérience d'un analyste. Évidemment que c'est pas la même. Est-ce qu'elle a la même valeur? Je sais pas, parce que elle peut se contester par l'autre expérience. Je l'ai dit tout à l'heure, on sera jamais assez légitime dans notre domaine, de toute façon. Mais la question de l'émergence, en fait, de cette opinion publique du football lié notamment aux réseaux sociaux, a surexposé cette question de la légitimité. La course à la légitimité, chacun est plus légitime, on le voit. Maintenant, ça va être le nombre de followers, par exemple. Le nombre de followers est un critère de scientificité, si je puis dire, un critère de légitimité. Et on est arrivé à un moment où il y a une crise du savoir, une crise de la vérité, si je puis dire, une crise de la connaissance, où on n'arrive plus à savoir ce qui fonde la connaissance. Est-ce que on connaît, est-ce que c'est à l'applaudimètre, ou c'est en rapport à la vérité? Le problème de la vérité, c'est que la vérité n'intéresse pas grand monde, en réalité. L'applaudimètre intéresse beaucoup plus, et est un critère beaucoup plus facile. La question de la vérité, elle est beaucoup plus difficile. Donc, dans notre métier, enfin dans le métier qu'on pratique, moi, là, chacun à sa façon, il faut pas oublier qu'on a affaire à une matière qui est une matière extrêmement mouvante, qui est une matière qui n'est pas soumise au calcul, comme peut l'être une autre matière, et que on demande, à mon avis, pas assez aux journalistes sportifs. Je pense que le journaliste sportif devrait être d'abord un humaniste, d'abord quelqu'un qui maîtrise les humanités pour pouvoir ensuite comprendre ce qu'est la spécificité d'une performance. Je dis pas ça pour moi, moi je fais comme ce que je peux, mais il y a dans la on donne beaucoup trop d'importance à la technique stricte, ce qu'on appelle journalistique. Alors que bon, apprendre un article, c'est la pratique, quoi. Il y a quelques éléments à savoir, et puis ça s'apprend en une demi-heure. C'est pas ça. On n'a pas besoin de 3 ans d'études pour apprendre à écrire un article. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on travaille. Ou pour tenir une caméra, il faut lire un mode d'emploi. Il n'est pas là le problème. Le problème, il est sur la manière dont on va interpréter cette performance, l'objet qui nous est donné, et comment l'éclairer. Hein. Je pense qu'il s'agit de voir avant même que de juger. Il faut voir. Et c'est difficile de voir ce qu'on voit, pour citer notre ami Peggy.
Laurent, tu as une réaction ou on passe à la prochaine question?
Vas-y, enchaîne.
L'esprit critique, donc voilà, moi, c'est ma prochaine question, c'est sur l'esprit critique. Est-ce que l'esprit critique n'est pas mort? Alors, on ne parle pas forcément de journalisme, mais en règle générale, les réseaux sociaux et tout ça, puisque finalement, maintenant, il n'y a que des clans. Il y a du clubisme, donc on peut plus critiquer son club ou ses joueurs, les joueurs du club. Il y a une volonté de garder ses petits privilèges chez certains. Et puis finalement, quand il y a un débat quotidien, est-ce que le débat quotidien, c'est pas la mort de l'esprit critique? Laurent, je te redonne la parole.
En tout cas, la critique n'est pas morte puisqu'elle resplendit constamment sur les réseaux sociaux. Là aussi, comme l'a dit Thibault, chacun a l'impression d'être plus légitime que l'autre. Il y a une part de posture, il y a une part de jeu aussi là-dedans. Le fait est que de plus en plus, enfin malgré tout, tout ce petit monde ne fait que supposer, supputer, quoi. Une anecdote sur le week-end, sur les matchs internationaux du week-end qui m'a à la fois un peu amusé et fait réfléchir. Irlande-France, tout le monde se demande pourquoi Deschamps relance Pavard au lieu de Koundé, et puis résultat final, 1-0, but de Pavard. Il s'est fait remplacer par Koundé qui a failli mettre un autogol, mais ça c'est autre chose. Et en Suisse, c'était la veille, Suisse-Biélorussie, le sélectionneur Murat Yakin titularise un type dont on ne sait pas s'il est milieu ou attaquant ou défenseur, qui s'appelle Renato Steffen, qui est tout petit. Sa seule qualité, enfin, c'est une sorte de trublion qui vibrillonne, qui fait rien de vraiment très, très concret. Et bon, surprise générale, il est titulaire. Il met 3 buts en 29 minutes. Et voilà. Alors ça, c'est le flair des entraîneurs. Ils sont malgré tout dans une situation où eux ont un autre rapport aux joueurs. Ils savent des choses ou ils ressentent des choses qui sont les seuls à voir ou à ressentir. Et donc voilà, il faut quand même avoir conscience de ça.
Et ça, c'est un vieux problème, Laurent. La question de l'intentionnalité. Le critique analyse l'intention de première, ou alors analyse la performance ou l'œuvre en tant que telle?
Et il me semble qu'on veut de plus en plus juger l'intentionnalité.
Ouais. Mais alors, dans ce cas-là, on met de côté ce qui est l'expérience de la performance elle-même. À savoir, l'intention est une chose, mais si on veut mesurer l'intention, dans ce cas-là, il faudrait l'établir au préalable. Il faudrait dire voilà, l'intention de. Il faudrait comparer le jugement, les intentions de l'entraîneur en l'occurrence, si on considère que l'entraîneur est l'auteur de la performance, et ensuite le comparer avec la réalité des résultats. Et dans ce cas-là, on tomberait sur un biais de résultat immédiat, savoir il a tort, il perd, il a tort, il gagne, il a raison. Dans ce cas-là, l'analyse se résumerait à entériner un certain nombre de façon quasiment mathématique, mécanique. Une intention au regard du résultat. Est-ce que ça se résume à ça, l'analyse de la performance ?
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Non, mais je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Sur la dernière Coupe du Monde... Les joueurs de l'équipe de France qui ont explosé les Pays-Bas sont pratiquement les mêmes qui avaient été très mauvais contre la Tunisie durant la Coupe du Monde. On aurait été tout à fait légitime à les critiquer sur le match contre la Tunisie et on les encense sur le match des Pays-Bas. Donc il s'est passé des choses entre les deux qui fait que l'intentionnalité ne juge pas au cas par cas. Il y a aussi différentes temporalités. Mais malgré tout, on reste dans un sport qui est soumis aux résultats et ça me semble difficile de s'en extraire totalement.
Ouais, mais c'est en ce sens-là qu'il est une dictature, le résultat. C'est-à-dire que si le résultat est le point de départ de l'analyse, il tord le bras à toute forme de mise en perspective ou de tentative de compréhension. Effectivement, il y a un biais de résultat qui est très fort en sport. Il n'y a que en sport, en réalité, où tu peux examiner un objet à partir de l'issue immédiate. Parce que même en relations internationales, en politique, en matière économique, les indicateurs sont beaucoup plus compliqués. La performance est beaucoup plus difficile. Une performance économique est beaucoup plus difficile. Alors peut-être le PIB, mais on va te dire oui, mais le PIB est pas le bon critère. Il y a le développement humain, etc. En sport, en particulier au football, il y a le score final qui mange tout, qui dévore toute forme d'analyse. Donc est-ce que le rôle précisément du critique, c'est pas de sortir du biais des résultats, même si c'est d'un point de vue, si je puis dire, politique ou d'un point de vue journalistique, quasiment impossible, parce que tu peux pas. On l'a vu dans le cadre de l'affaire Jacquet, c'est ça. L'affaire Jacquet avec l'équipe, c'est ça. C'est comment précisément Egenès et Jérôme Bureau sortent de la question purement du résultat. Alors même si les résultats étaient pas tellement satisfaisants, mais c'était des matchs nuls. Il n'y avait rien de catastrophique dans les analyses. Pendant presque deux ans, ils ont matraqué sur la méthode, sur le sens, pour finalement, avec la victoire finale de l'équipe de France, revenir complètement en arrière et cette fois-ci prendre la roue et dans laquelle se trouve toujours maintenant le groupe Amaury, en particulier France Foot et l'équipe, de suivre le résultat, de devenir un journalisme de suiveur, si je puis dire, plus que d'analyste, c'est-à-dire de vraiment coller au résultat pour ne surtout pas mécontenter son lecteur. Donc ça, c'est un vrai problème dans le cadre du journalisme sportif.
Mais peut-être qu'ils se sont trompés sur Jacquet, non pas sur le style ou sur la méthode, mais sur le fait qu'ils n'ont pas vu qu'il était en train de préparer Zidane, que la défense Barthez, Blanc, de Saï, Thuram n'avait pas perdu un match. Et qu'il y a des choses qui se mettaient en place, quoi. Peut-être qu'ils ont raté ça. Après, je suis d'accord que ça se joue à une volée de demi-volée de Baggio à 3 cm ou un doublé de Thuram, tout un tas d'événements favorables qui auraient pu changer. Mais malgré tout, je pense qu'il faut quand même tenir compte de ces facteurs-là.
Bah le facteur émotionnel, le facteur on en a parlé tout à l'heure, cette idée que c'est un journaliste de connaisseur.
Non mais l'excès inverse, c'est Rodrigo hier soir après Écosse-Espagne qui discrédite presque la victoire de l'Écosse parce qu'ils jouaient mal et qu'ils ont passé leur temps à défendre. Est-ce que ça, c'est pas l'excès inverse?
C'est ma prochaine question. Comment accepter la critique et est-ce que le joueur doit accepter la critique?
Moi, ce que dit Rodri, dans le cas de Rodri par exemple, ce qu'il dit est discutable, parfaitement discutable, mais c'est précisément l'intérêt de ce qu'il dit. C'est précisément une critique qui est ouverte. C'est-à-dire qui t'invite à la conversation, qui t'invite à la discussion. Et je trouve que c'est précisément l'intérêt de ce type de propos-là, plutôt que d'avoir tenir des propos lénifiants sur la performance. Bon, on a mal joué, on a perdu. Et précisément, tomber dans ce biais de résultat-là, lui, il ouvre quelque chose. Et c'est pareil. Je dis pas que c'est la seule critique possible. Il faut pas qu'elle soit uniforme, mais qu'elle me semble plutôt constructive, cette critique-là, même si elle est un peu dure à entendre. Elle me semble plutôt constructive. On peut effectivement se demander, non pas si les Écossais jouent au football ou pas, mais sur quelle idée repose faire une généalogie des propos de Rodri. D'où vient cette idée qu'un joueur maintenant peut discréditer, penser contre le résultat, penser contre lui-même, contre le match lui-même, et le dire ouvertement. D'où ça vient? D'où ça vient dans l'histoire récente du football espagnol, par exemple? Parce qu'il n'est pas le seul à le dire. Luis Enrique disait la même chose. Donc je trouve ça, moi, plutôt stimulant, en fait. Et je trouve qu'il est là, l'intérêt, à mon avis, de la discussion.
Laurent, toi, est-ce que tu as eu des joueurs qui t'ont appelé ou qui t'ont fait passer un mot disant que tu avais été trop critique? Après, toi, tu fais pas forcément des notes, mais c'est vrai que souvent, les notes, ça cristallise la déception ou l'énervement des joueurs.
Alors, je suis pas vraiment pas dans ce genre de truc. On fait même assez peu de compte rendu de match en raison des horaires, parce qu'on a un journal qui boucle très tôt. Je pense qu'il y a peu de professions qui sont aussi autant soumises à la critique que les footballeurs.
Il y a le journalisme.
Est-ce qu'ils doivent l'accepter? Est-ce qu'il faut se taire? Est-ce qu'il faut, au contraire, quand on sent qu'il y a une injustice, ou quand on voudrait, parce que parfois le joueur il peut pas expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il a fait un mauvais match, parce que il y a des raisons personnelles dont on voudra peut-être pas parler, ou alors parce que il a passé tout le match sur la ligne parce que son entraîneur lui a dit de le faire et que il a juste eu des consignes qui étaient peut-être pas les meilleures au moment M.
C'est assez complexe, effectivement. On n'a pas forcément toujours tous les éléments. La critique aussi de plus en plus émotionnelle, et les réseaux sociaux permettent instantanément de publier quelque chose au moment où on l'exprime rageusement devant sa télé, quoi. En tout cas, les joueurs ont tout intérêt à faire le tri entre des vraies critiques sérieuses de gens qui ont réfléchi, qui ont un propos étayé et des réactions d'humeur. Voilà.
Après, il y a une particularité quand même du football qu'il faut quand même se rappeler ici, c'est son universalité. L'universalité de ses règles, en tout cas. Les règles sont simples. Une partie du succès du football vient de la simplicité des règles. Le jeu est complexe, mais les règles sont simples.
De moins en moins, grâce à Infantino.
Oui, de moins en moins, mais malgré tout, les hors-jeux, ça reste accessible au moins à un enfant de 8 ans. 8, 9 ans, quoi.
Des bouteilles, un stylo et un verre.
Voilà, beaucoup plus que les règles de touche au rugby, par exemple. C'est malgré tout un sport qui est extrêmement accessible, et de son accessibilité vient son universalité. Et donc chacun s'autorise à avoir un avis dessus. Et ça ressemble un peu, il y a dans la préface des principes de la philosophie du droit, Hegel dit la même chose de la philosophie. Il dit la philosophie, elle a une particularité, c'est comme elle traite de sujets universels, tout le monde se sent autorisé à donner son avis. Précisément parce qu'elle traite de sujets, la morale, le droit, la politique, qui sont des sujets qui concernent tout le monde. Et le football, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le football, oui, chacun a un peu un avis, parce que même quelqu'un qui n'y connaît rien est capable de voir que Mbappé est un bon joueur ou pas un bon joueur, est capable d'évaluer à son niveau, mais est capable de l'évaluer. Donc ça, il y a quelque chose qui est propre au football, et je pense qu'il ne faut pas le dénigrer, ça. Je pense qu'effectivement, il y a une partie d'opinion publique, d'opinion populaire, une partie comptoir, qui fait partie du football. Et souvent, on vient au football par ce biais-là, par la conversation de comptoir, et il est là le plaisir du football. Sinon, si on n'en parle pas, quel est l'intérêt? Peut-être un intérêt un peu évanescent le temps d'un match, mais l'idée, c'est quand même de rencontrer un autre amateur avec qui on va discuter de tel joueur, de telle référence commune, et c'est comme ça que se fait le connaisseur. Le connaisseur, c'est celui qui va te dire, Zidane, telle époque, Bordeaux, je l'ai bien connu, il va te raconter ses souvenirs, et il y a une vertu vraiment nostalgique du football, il y a quelque chose qui est de propre à l'opinion de chacun, à l'expérience de chacun, et ça, il faut pas la mettre de côté. Et effectivement, les réseaux sociaux ont fait apparaître ce qui jusqu'à présent était un peu en sourdine, qui était l'idée que le connaisseur a aussi un avis. Il a un avis, il a envie de l'exprimer, il estime qu'il est juste. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il est le seul légitime ? Est-ce que sur quoi il est fondé ? Moi, je crois que là-dessus, les réseaux sociaux ont fait apparaître une forme de culture populaire du football. Alors, il y a avec tous ces excès, et contrairement peut-être à beaucoup de domaines ou à quasi la totalité des domaines, il me semble que les réseaux sociaux ont plutôt fait progresser la culture football en France. C'est très paradoxal. Il y a beaucoup de gens qui sont apparus, des analystes qui sont issus de ces milieux-là. Il y a eu un effet de bouillon de culture qui a permis aux connaisseurs de se reconnaître entre eux. Et ça a donné, et d'ailleurs beaucoup ont fait maintenant leur carrière à partir des réseaux sociaux. C'est pas totalement un hasard non plus. Il y a l'idée quand même que il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, parce que l'horizontalité des réseaux sociaux a permis de faire apparaître un certain nombre de profils qu'on connaissait pas, qu'on n'attendait pas. Et la difficulté du jugement, c'est qu'il est nécessairement vertical. Et donc, comment tu fais pour mettre de la verticalité dans ce qui est horizontal ? Et que la difficulté du football, quand un joueur, par exemple, se fait déchirer sur les réseaux sociaux, ou se prend des tempêtes liées à une mauvaise performance, comment on l'interprète ça ? Comment on le prend ça ? Effectivement, une des manières d'interpréter, c'est de dire, c'est des gens qui n'y connaissent rien. Certes, c'est peut-être des gens qui n'y connaissent rien, mais ils y connaissent quand même un peu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même à prendre là. Donc c'est très difficile à interpréter. Moi j'ai pas la réponse, mais on peut pas non plus balayer d'un revers de main ce qu'est l'opinion populaire du football. Ouais. Je crois pas.
Après la question c'est est-ce que connaître le football c'est connaître la vie de l'équipe, la vie du club et toutes les choses qui font on peut prendre le cas par exemple de l'Olympique Lyonnais, il y a eu tout un débat qui comme tu l'as dit il y a eu une sorte de scène lyonnaise qui a émergé sur les réseaux de gens souvent bons et pertinents dans l'analyse. Et en même temps, il y a aussi eu cette fameuse sortie de Bernard Lacombe sur le fait que tous ces gens n'y connaissaient rien. On a pu dire ces dernières années que Aulas avait plusieurs fois cédé ou donné raison aux réseaux sociaux. Sans forcément que les résultats de son club s'améliorent. Donc, ni même l'identité de l'OL n'en soit renforcée. Donc, connaître le football, c'est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante pour comprendre ce qui se passe et l'analyser.
Et connaître et le penser, c'est pas la même chose aussi. C'est pas exactement le même registre. Dans le cas de l'Olympique Lyonnais, effectivement, quand Lacombe ou même Aulas, qui lui-même est un grand utilisateur des réseaux sociaux, hein, curieusement, quand il désigne les réseaux sociaux comme si c'était un monde à part ou est uniforme, se trompe. La preuve étant que lui-même l'utilise à des fins commerciales. Donc c'est bien la preuve que c'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes qui sont en cause. Les réseaux sociaux ont fait apparaître un certain nombre de discours. Mais chacun voit un peu midi à sa porte, hein, dans les réseaux sociaux. Vous pouvez, c'est le principe du réseau social, c'est qu'il y a des bulles cognitives qui font que, de toute manière, vous tomberez toujours sur des gens qui sont d'accord avec vous. Donc, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a le même avis. Toute personne a la même timeline. Personne ne voit la même chose sur les réseaux sociaux. Donc chacun vit dans sa propre bulle. Et c'est peut-être le reproche qu'on peut adresser aux réseaux sociaux en tant que tels, mais considérer que les réseaux sociaux sont un univers uniforme dans le cas de l'Olympique Lyonnais, c'est absolument pas le cas. Simplement, on choisit à un moment de donner un coup de projecteur sur tel type de courant d'opinion plutôt qu'un autre. Et que accuser les réseaux sociaux pour expliquer les mauvais résultats d'un entraîneur ou les mauvaises décisions d'un organigramme, c'est confortable parce que les réseaux sociaux, c'est tout le monde et en même temps c'est personne. Donc ça permet de se déresponsabiliser tout en faisant mine d'écouter le peuple, quoi. Donc c'est à la fois un peu démago et en même temps pas digne en réalité de l'institution, quoi. Pour parler avec les mots de Aulas, je crois que la vision va au-delà de la question. Quand tu as une vision, quand tu es dirigeant, ta vision va bien au-delà des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent t'aider à un moment ou à un autre. Peuvent être l'opinion publique et un élément nécessaire, mais effectivement pas suffisant. L'opinion publique fait partie du débat, en particulier en matière de football, mais elle n'est pas le seul. Il y a effectivement des choses que l'opinion publique ne peut pas savoir, ne doit pas savoir, mais qui font partie aussi du processus de décision. Le rôle du dirigeant, c'est de prendre en main le narratif, quoi. Le narratif pour tenir tout ça ensemble et faire en sorte que une aventure commune puisse avoir lieu.
Ben voilà, moi, je vous propose mon jugement. Ben, mon jugement, c'est que ce podcast était vraiment très intéressant. Je vous remercie tous les deux de votre contribution au podcast et d'accepter régulièrement d'y participer. C'est pour moi un vrai plaisir et il faut bien le dire, un honneur. On peut évidemment retrouver Thibaut Leplat sur les réseaux sociaux, justement, sur Twitter, son un commercial T-L-E-P-L-A-T, et Laurent Favre, toujours sur Twitter, son un commercial Laurent Favre, L-A-U-R-E-N-T, F-A-V-R-E. Si vous voulez réagir au podcast, poser des questions, mon Twitter, Monsieur Foot de Foot, M-R-F-O-O-T-D-E-F-O-O-T. Le podcast Sur la ligne est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Vous trouverez facilement son joli logo vert. Enfin, pour conclure, je salue comme de tradition et j'embrasse mon fils Adrien. Merci Thibaut. Merci Laurent. À bientôt.
Merci à toi Alex. Salut.
Merci.